curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Premier sujet ce matin, l'autorité parentale. On a lu les deux chroniques de notre collègue Patrick Lagacé qui raconte l'histoire d'un père qui a abusé de ses deux enfants. La mère a découvert ça. Divorce. Le gars a plaidé coupable, sauf que elle s'est rendu compte qu'il conservait une autorité parentale, donc, sur les enfants. Puis elle a dû se battre devant le tribunal pour retirer, faire annuler les pouvoirs du père. À quel moment on devrait, puis sur quels critères on devrait retirer l'autorité parentale? Nathalie.
Ben, tout d'abord, Paul, bravo à Patrick pour ces deux chroniques. C'est une histoire épouvantable. Malheureusement, le cas d'Isabelle n'est pas un cas unique. Je pourrais vous raconter l'histoire de Sophie, par exemple, ou de Kate qui vit la même chose. À quand doit-on, quand s'arrête l'autorité parentale, théoriquement, jusqu'à 18 ans? Parce qu'un parent, des parents ont une autorité sur leurs enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais dans des cas exceptionnels, et le mot exceptionnel est important, un parent fautif peut se voir retirer son autorité. On appelle ça la déchéance, l'obtention d'une déchéance parentale. La Cour suprême, d'ailleurs, il y a quelques années, a reconnu le caractère exceptionnel d'une demande de déchéance parentale. Pourquoi? Parce que l'autorité parentale, je sais peut-être que mon parallèle est boiteux, mais c'est un droit quasi fondamental. Ça aurait pu presque être, dans le droit de la famille, c'est un droit vraiment qui est majeur, parce que avec l'autorité parentale, mais malheureusement bien des parents l'oublient, vient des responsabilités, des obligations, parce que l'autorité parentale relève d'un droit, et avec ce droit viennent des responsabilités, des obligations. Et dans les critères, Paul et Patrick y fait référence dans ses chroniques, il faut, pour qu'un parent perde son autorité, il faut qu'il ait commis un motif, grave pour perdre son autorité parentale. Évidemment, les motifs graves, abandon, brutalité, violence, négligence sur le plan alimentaire, affectif, abus, agression sur le plan sexuel. Mais ce qui est terrible dans ces genres de cas, c'est que la mère ou le père, mais dans ce cas-ci Isabelle, a dû se battre devant un tribunal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la Cour qui peut autoriser cette déchéance sur le plan de l'autorité parentale.
Luc?
Donc, elle l'a obtenu facilement en bout de ligne. Ça a pris 18 mois, je pense, pour qu'elle passe en cours. La minute qu'elle passe en cours, le juge, il a dit merci, c'est affreux. Ce gars-là ne mérite pas d'avoir l'autorité parentale. Il a semoncé le père, puis il a automatiquement retiré l'autorité parentale. Mais il a fallu qu'elle aille en cours, comme dit Nathalie. C'est un parcours de combattant. En plus, ça coûte cher. On fait ce que la France est en train de faire, c'est-à-dire que le projet de loi a été déposé le 10 février. Il est en cours d'étude en ce moment à l'Assemblée nationale française. C'est on retire l'autorité parentale automatiquement. Les avocats, les juges détestent les jugements automatiques. Ils haïssent ça parce que ça les empêche d'exercer leur jugement. Et c'est donc en toute dernière analyse que les lois d'habitude disent ça va être automatiquement, comme Harper avait fait avec certains types de crimes, même chez les adolescents. Mais dans le cas de l'inceste, moi je pense que ça s'applique. Je pense qu'il faudrait l'appliquer automatiquement, et pas simplement automatiquement, mais même automatiquement dès l'accusation. C'est-à-dire avec une accusation, déposition des charges par la police. La police reconnaît que il y a matière à enquête, même si le jugement n'a pas eu lieu, on le fait. Parce que le jugement peut durer...
Mais en tout cas, tu peux au moins suspendre l'autorité parentale pendant ce moment-là.
Ouais. Mais en échange de quoi, il faut accélérer le jugement, par exemple. Parce que ça peut durer au Québec 2, 3, 4 ans. Et là, pendant ce temps-là, si tu suspends une autorité parentale, puis qu'en bout de ligne... Donc, il faut que tu ailles vite dans le jugement si tu fais ça. Mais moi, je dirais, regarde, la France, c'est un tiers pays sûr, ça. On l'adopte ipso facto. Et si on l'analyse même pas, on fait juste le tampon du Québec par-dessus la loi française. Merci, bonsoir. Ouais. Et on jasera après, on discutera après. Parce que les impacts sur les enfants de l'abus sexuel sont terribles. Il y a une étude de Ipsos qui a été faite sur des milliers de personnes qui ont été victimes d'inceste. C'est une étude européenne. La quasi-totalité des répondants, 98%, avouent ressentir actuellement ou avoir ressenti dans le passé de la dépression. Donc, c'est 72% qui ressentaient des signes de dépression après les faits, mais longtemps après les faits. Et ça, c'est pas juste la dépression. L'incidence sur la consommation d'alcool, la boulimie, le manque de sommeil sont énormes. Les comportements aussi, avoir des crises de larmes, se fâcher, avoir des mauvaises relations avec autrui, se cantonner, s'isoler, sont énormes, sont insidieuses, sont longues. On n'accorde pas assez d'importance à ces crimes.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi. En fait, on peut se demander légitimement qu'est-ce qui prime l'intérêt de l'enfant ou le droit à cette autorité, à l'autorité parentale. Mais il faut se le dire là, faut vraiment avoir des maudits problèmes entre les deux oreilles pour agresser sexuellement tes propres enfants là. Dans le cas d'Isabelle, c'est des enfants de 6 ans, 4 ans et 1 an. Et si la peine de mort était toujours possible au Canada, je peux vous assurer que l'opinion publique se cristalliserait rapidement, c'est-à-dire qu'on serait nombreux à lever la main pour demander un châtiment comme celui-là pour ce genre de salopards, parce que moi, je les appelle des salopards. Absolument. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour les décrire.
Mais moi, je vais te donner un cas, je l'ai parlé un peu avec Patrick tantôt, mais, mais c'est vrai. Là. Pourquoi on ne voit pas les intervenants utiliser ou demander plus souvent la déchéance parentale? C'est parce que dans des cas comme ça, puis je te jure, j'en ai vu, puis je parlais avec Patrick tantôt, puis lui aussi, il a des cas en tête, là, où on s'est fait dire, ben, c'est correct qu'il y ait des contacts qui soient maintenus entre le père abuseur puis les enfants victimes parce que ils ont pas qu'un mauvais souvenir du père. Ils vont sentir coupables. Ils vont sentir, ben, c'est de ma faute s'il va en prison puis si j'avais pas parlé, il serait encore avec nous. Bon. Moi, là, je suis pas un psy, là. Je le sais pas. J'ai de la misère à comprendre ça, là. Si t'abuses d'un enfant de 3 ans, je sais pas quel est son bénéfice, là. Mais il y a beaucoup d'intervenants qui pensent qu'il faut pas faut encadrer, faut superviser.
Mais d'abord, et ça, c'est très fort ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire maintenir le lien. Là. Ça, les avocats, ils ont juste ça en bouche, maintenir le lien, les avocats de la défense. Et des études qui ont été faites encore en France, parce que j'ai pas trouvé cette information-là au Québec, où ils disent que dans les jugements, le père va accepter facilement des augmentations de peine. Il regardera pas sur l'augmentation de peine, mais il va se battre jusqu'au sang pour le maintien du lien parental.
Parce que, mais Luc, quand tu parles d'intervenant, Paul, c'est-à-dire tu vas faire à qui exactement?
La DPJ. Oui,
voilà.
Moi, ce sont des gens de la DPJ qui m'ont dit ça, puis des psychologues qui m'ont dit la même chose. Là. C'est pour ça que quand tu parlais d'un jugement automatique, là, c'est sûr qu'il y aurait de l'opposition. Là.
Ouais, mais la réalité est plus nuancée que ça, dans les faits. Mais je reviens à l'intérêt de l'enfant. Qu'est-ce qui prime le plus? Dans le fond, l'intérêt de l'enfant versus le droit à l'autorité parentale, parce que bien que négligent, un parent fautif peut démontrer qu'il a toujours la capacité et la volonté d'assumer ses responsabilités pour lui éviter une déchéance sur le plan de l'autorité parentale. Prenons un cas de figure. Des enfants qui sont victimes de violences conjugales, OK? Mettons, ils sont pas battus. Le conjoint bat sa femme. Les enfants sont témoins des violences que subissent leur mère. Et le père va conserver des droits de visite pour voir ses enfants des droits de visite supervisés. Mais alors, comprenez, là, tu dis, attends une minute, là, les enfants ont probablement été traumatisés par ça, mais le lien demeure toujours, mais sous supervision. Alors, il y a toutes sortes de nuances qui font en sorte qu'on place souvent les enfants dans des situations extrêmement délicates et compliquées. Moi, je trouve que c'est dur pour les enfants. C'est comme les prendre en otage, d'une certaine façon.
Mais tiens, on a changé la dynamique. En tout cas, on est en train de la changer parce que moi, j'ai vu des cas là, où c'était, oui, mais vous comprenez, il faut qu'il y ait des contacts avec les enfants, c'est bon pour sa réhabilitation, c'est bon pour son cheminement. Je me sac un peu de savoir si c'est bon pour lui, là, mais c'est-tu bon pour l'enfant? Mm. Puis dans bien des cas, je m'excuse, mais c'est non. Fait que, t'sais...
Ah, puis tu sais, quand tu lis les témoignages devant la Cour de libération conditionnelle, pas la Cour.
La Commission?
La Commission de libération conditionnelle, c'est extraordinaire, là. Les textes élaborés, quasiment fleuris, lyriques de « j'ai été un salaud, je me repens, je ne suis plus le même homme, je ne suis plus le même homme, ça fait 8 mois que ça s'est passé. » Parce que le gars, le Martin en question, là, il a passé 8 mois en prison. Il a eu 3 ans, puis il a passé 8 mois. Pourquoi il a eu 3 ans? Parce que c'est pas une peine automatique. Puis pourquoi c'est 3 ans?
parce que c'est un aveu va lui permettre d'éviter un jugement qui va être long, donc la Cour récompense ça en réduisant les peines. C'est pas 3 ans qu'il aurait dû avoir, c'est beaucoup plus, puis il est sorti au bout de 8 mois. Donc, la déchéance d'autorité parentale, la mère l'a obtenue bien après qu'il soit sorti de prison. Fait qu'en normalement, en temps réel, là, dans une affaire normale, ça ne l'avait pas obtenu. Lui, il sort de prison après 8 mois. Il a un droit automatique de contact avec les enfants 8 mois après les faits.
Non, c'est pas nécessairement de contact, mais il y aurait le droit de, il y aurait son mot à dire. Il y aurait son mot à dire,
mais,
sûr.
Mais peut-être en terminant rapidement, une des explications sur pourquoi l'autorité, le droit parental est aussi fort, c'est que la jurisprudence estime qu'être déchu de son droit parental, tenez-vous bien, ça s'apparente à une mesure cruelle et draconienne. Alors, mais rien sur les enfants. Mais par contre, t'es un parent, tu perds ton droit parental, ton autorité parentale. La jurisprudence estime que c'est une mesure cruelle et draconienne. Imaginez, on part de loin là pour ce qui est de la protection de l'intérêt de l'enfant.
On s'arrête pour la pause et au retour, c'est la semaine décisive. Ce virage majeur que Montréal va prendre vendredi, le sommet sur les chantiers. Est-ce que les solutions vont fleurir ou s'il faut simplement accepter le sort?
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, le sommet sur les chantiers aura lieu ce vendredi. On a pu quand même voir que les parties prenantes ont plein d'idées. Faire en sorte que les chantiers ne s'étirent pas, qu'il y ait moins d'obstacles possibles, meilleure coordination. Alors, est-ce qu'on se compte des peurs, puis est-ce qu'on pense que ça peut vraiment s'améliorer? Ou bedon, il est possible qu'on trouve une voie de passage.
Luc. Regarde, donc, en vue du sommet, les solutions ont commencé à être énumérées. Émilie Tuilier, qui est responsable, qui a commencé à en libeller quelques-unes. Premièrement, ça va du compte moins gros, parce que les comptes sont faits pour les autoroutes. Puis elle dit, en ville, on pourrait peut-être avoir des comptes moins gros. Ensuite de ça, l'obligation de les mettre à la dernière minute, de les retirer une fois le travail exécuté. Peut-être même entre les phases, là, des fois ça se voit, ça, de circuler alors que la chaussée n'est pas entièrement... Tu sais, mettons, t'as fait la dalle, mais t'as pas mis l'asphalte encore. Une application qui permettrait de visualiser les travaux et les parcours, puis les temps de trajet. Puis peut-être que cette application-là te dirait, en transport en commun, tu vas gagner 10 minutes. Donc, ça, c'est le genre de solution qui est mis sur la table. Mais moi, bon, tant mieux s'ils veulent travailler sur ces petites affaires-là, c'est bon, là. Mais toutes les maires ont tenté de faire ça à ce jour, puis il y a déjà eu des grosses améliorations qui ont été mises sur la table. Par exemple, il y a déjà dans les contrats qui sont signés avec les constructeurs, les entrepreneurs, il y a déjà un temps et un temps de chantier qui est dans le contrat. Puis là, on s'est rendu compte que dans le temps de chantier, il y en a qui l'étiraient en masse. Et alors, il y a eu une deuxième élément qui a été ajouté au contrat par la suite. C'était non seulement tu as un temps de chantier, mais deuxièmement, tu as un minimum d'employés sur le chantier. Parce que tu peux avoir juste un gars qui balayait le chantier, puis le chantier était mort, tu sais. Ben là, maintenant, tu as aussi dans le contrat un minimum de personnes qui travaillent dans le chantier. Il y a aussi l'obligation de déposer un plan d'aménagement du chantier, donc avec les voies de contournement, etc. Il y a une brigade de mobilité qui donne des contraventions, etc. Fait que tu as déjà tout ça, là. Les administrations passées qui se sont attaquées au problème ont déjà mis ça en place. Là, il y en ajoute une couche avec des petits éléments, ça me semble des petits éléments, pas grand-chose.
OK. Nathalie.
Moi, je propose une chanson thème pour le sommet sur les chantiers. Je propose « Ça fait rire les oiseaux » de la Compagnie créole. Ça mettrait un peu de pep dans le cœur des participants. Non, mais honnêtement, vaut mieux vivre d'espoir que de sombrer dans le désespoir. Et t'as lu comme moi l'article de la presse, Luc, selon la ville, il n'y a pas de fatalité en matière de gestion des chantiers. Moi, je vous le dis, on s'attend à ce qu'il y ait de la fumée blanche au sortir de ce sommet. Et ce qui serait extraordinaire, c'est que la centaine de manifestants prononce en cœur « Eureka, nous avons trouvé ». Je crois qu'il y a une obligation de résultat pour ce sommet. Je peux pas croire qu'on va faire déplacer une centaine de participants, d'experts de tous les horizons. et ne pas s'entendre sur des moyens à mettre en place, à déployer pour améliorer la gestion des chantiers. Luc, tu as fait référence à un certain nombre de constats, je ne vais pas les répéter, mais clairement, les moyens existent. Mieux recenser, inventorier les chantiers. Imaginons, on ne sait toujours pas dans certains cas qui est responsable des travaux. Une application pour coordonner toutes les entraves. Je disais dans l'article de la presse qu'il y a une entreprise qui existe, Opa Technologies, la Caroline Arnoux, la PDG a mis en place une application pour coordonner une application qui est branchée avec ton Waze dans ton auto, fait qu'en temps réel, tu as toute l'information sur la façon dont les chantiers sont organisés sur un territoire donné. La ville peut mieux coordonner avec cette application les chantiers et l'automobiliste, lui, trouve son compte parce qu'il peut aménager son parcours en fonction de l'information qu'il reçoit en temps réel. Quand je disais ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'on attend? On a la solution, là. Ce genre d'application, c'est extraordinaire. J'espère qu'on ne la boudera pas. Dans les solutions des chantiers 24 heures sur 24, évidemment avec ses limites, pénaliser davantage le laisser-aller, des récalcitrants, on devrait leur imposer des amendes plus salées. Et d'ailleurs, je disais dans cet article de la presse que à la ville, on s'interroge pourquoi il y a tant de cônes oranges qui traînent un peu partout dans les rues de Montréal, sachant que ça coûte une fortune, les cônes oranges. 137 $ par cône, tu sais, les méga-cônes, mm-hmm. comme on voit. Et là, la ville, c'est, ben voyons donc, au prix que ça coûte, nous autres, on va les récupérer, les fameux cônes oranges. Mais je me demande si, dans le fond, la solution, au-delà de tout ce que je viens de dire, trouve pas son... Si une des solutions ne repose pas sur le nombre de chantiers, c'est-à-dire que la ville a réduit son nombre de chantiers l'année passée ou il y a 2 ans, et ça a donné des résultats quand même assez concluants. Parce que la ville de Montréal, faut-il le rappeler, est responsable de 30% des chantiers sur son territoire. Les donneurs, les autres grands donneurs d'ouvrages, Hydro-Québec, Énergir, etc., Ministère des Transports, STM, c'est 70%. Bon, il y a un problème de coordination entre eux. Mais si on diminuait le nombre de chantiers, si on assurait une meilleure communication entre les parties, meilleure planification, peut-être qu'on finirait par y arriver.
Mais je suis entouré de gens optimistes.
Oui, tout à fait. Mais Paul, on essaie de te mettre un peu de pep dans le corps.
Non. Mais c'est parce que moi, je pense qu'il y a une réalité. D'abord, là, on le dit pas trop fort, là, mais heureusement qu'on est dans l'après-pandémie puis que le flot de circulation est pas le même. Tu sais, le vendredi, là, je sais pas, c'est 30, 40% de ce qu'il y avait avant, là, mais c'est nettement moins. Ça, c'est la première chose. Moins de monde dans le centre-ville, ce qui est une réalité, là, sauf l'été parce qu'il y a des touristes. Mais comment veux-tu faire des chantiers privés? Puis, tu sais, je regarde la rue Peel, là, puis je regarde la rue Mansfield. Quand tu montes, là, il y a des chantiers privés partout qui empiètent sur la chaussée. Fait que si tu as du stationnement, puis après ça, tu as la. Tu sais, c'est une congestion assurée. Assurée parce que quelqu'un. C'est impossible.
Mais moi, je suis sûr. Puis aussi, mais par contre, on rentre dans une période de récession, ça va naturellement. Il va y avoir une réduction des investissements. Il va y avoir une réduction pendant un certain temps. Mais c'est pas les solutions qui sont mises en place. Comme par exemple, les solutions qui sont mises en place, le 24 sur 24, là. Ah, c'est du marketing, ça. Voyons donc. Les chantiers sortent déjà à 30, 40, 50% plus cher que les soumissions. Tu rajoutes du 24 sur 24? J'étais là. On l'essayait pour la rue Sainte-Catherine. C'est plus de 100% plus cher que les coûts que l'évaluation.
Ouais.
Fait que même l'entrepreneur te dit, faites pas ça, ça va vous coûter trop cher. Il te regarde dans les yeux puis il dit, ah, c'est vraiment hors de prix, là. Faut qu'il fasse rentrer 3 équipes. Manque de personnel. Faut qu'il fasse rentrer 3 équipes une par-dessus l'autre. Ça marche pas. C'est du vent. L'autre qui est du vent, c'est Waze. Parce que ça, là, s'il y a un chemin de contournement.
Tout le monde va le prendre.
À peu près valable. bien sûr que tout le monde va le prendre. C'est pas ça le problème. C'est quand t'as chantier sur chantier sur chantier. C'est-à-dire, tu détournes les gens sur telle rue, puis sur telle rue, il y a aussi des travaux, il y a aussi des contraintes, ou à cette heure-là, il y a quelqu'un qui ramasse les vidanges, ou je sais pas quoi. C'est là le problème. C'est le cumul de tous les problèmes. Et c'est pour ça que Waze pourrait marcher si, par exemple, tu disais, regarde, ton temps de trajet, ça va être temps. Mais n'y va pas, tout simplement.
Mais l'autre impact de Waze, c'est que ça détourne le trafic vers des endroits qui sont des quartiers résidentiels, souvent des rues, là, des petites rues où il n'y a pas de volume automobile normalement. Puis je comprends, comme autour du tunnel, je comprends les gens qui chialent, qui disent, nous autres, on avait une rue tranquille, là, c'est rendu
et
que...
Crime, parce que ça peut durer 2 ans, 3 ans, là. L'autre affaire, là... Oui, pardon.
Ouais, mais je vous écoute, là, vous faites seulement les constats de ce qui ne va pas. On va sur la lune,
dis-moi
là, je peux
pas croire. Dis-moi ce qui ne va pas.
Non, mais je peux pas croire qu'on peut pas trouver de solution.
On peut améliorer, mais tu sais, si on pense que quelques affaires,
Mais si on pense là, que du jour au lendemain, ça va redevenir fluide, puis moi, je pense que la ville ne veut pas que ça devienne fluide non plus.
Non, mais la ville estime que les chantiers, c'est bon pour l'économie. C'est un signe de vitalité sur
le
plan économique.
Oui, puis ça écœure l'automobiliste. Comme ça, on le pousse vers le transport en commun.
Oui,
c'est une autre approche,
Paul,
un autre plan secret.
Paul, c'est inimaginable de vivre dans une ville, dans une métropole, sans qu'il y ait de chantiers. Des chantiers, il va toujours y en avoir.
Il y en a partout dans le monde.
Oui,
moi, je suis allé
exactement.
Au Portugal cet été, c'était plein de chantiers.
Oui, puis.
Mais ben, c'est sûr que ça bloque, c'est sûr que ça. Mais de toute façon, puis je comprends les gens là, qui se déplacent en auto pour leur travail. Tu sais, il faut que tu traînes tes outils. Ouais. Comprends-tu ça, là?
Oui.
Mais la vraie vie, c'est que c'est pas avantageux.
Tu vas être bloqué.
Tu peux peut-être accepter.
En ce moment, tu l'es moins, là, comme tu le disais.
Oui.
En ce moment, tu l'es moins, ça paraît.
Le lundi et le vendredi. Ça circule pas.
Écoute, un vendredi ensoleillé là, printemps.
Ça arrive pas.
Tu peux faire du skateboard dans la rue.
Mais un autre élément, peut-être que ça va être soulevé par les gens au sommet, c'est Catherine Morancy de Polytechnique qui a mis sur la table un élément qui va faire réagir énormément les Montréalais et tous ceux qui vont à Montréal à tous les jours, c'est que certains estiment, comme elle, qu'il y a trop d'automobiles sur l'île de Montréal. Je pense que, Luc, tu en es. Il y a trop d'automobiles. Mais ce qu'elle dit, c'est que 1 million d'automobiles à Montréal, 2,6 millions sur les couronnes, mathématiquement, ça ne rentre plus sur l'île.
Voilà.
Alors, je sais pas comment on va y arriver pour diminuer le nombre d'automobiles.
C'est pour ça que les gens veulent faire du télétravail au max.
Ouais, c'est ça.
Entre autres. OK, merci. On vous retrouve demain.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.